Merci à tous d'être ici. Déjà, première question. Première question, est-ce que vous connaissiez le lieu?
Oui.
Ouais, tout le monde.
Arthur, la
réponse. Non, j'ai fait les travaux de maçonnerie quand j'étais en tant que 18 ans.
Ok, d'accord.
Tu vois la pierre à eau?
C'est lui qui a déjà fait, mais il est aussi de l'autre côté du château.
Ah ouais, bravo.
Avec le propriétaire qui était à Truelle et nous, on faisait les manœuvres.
C'est pour ça que tu étais bien ensemble. Merci. Ok, très bien. Bah, Arthur, je suis ravie de faire ta connaissance, parce que j'avais vu Vincent, on a déjà fait des émissions ensemble, mais je ne te connaissais pas, et c'est hyper important pour nous que vous soyez présents ce soir, tous autant que vous êtes, hein, parce que vous représentez tous une force vive du territoire, comme on les appelle, mais moi je trouve que c'est un peu plus que ça. Vous êtes quand même toutes des personnes qui se sont aussi démarquées au niveau hors territoire.
Merci de l'invitation.
Alors... j'espère que vous passez un agréable moment.
Eh bien, écoute, très bien.
Très bien.
On va passer un moment de convivialité, on va manger. Merci à Marjorie et Stéphane de l'atelier traiteur d'avoir joué le jeu pour ce soir. Et je suis contente de travailler comme ça en circuit court. Je trouve que c'est hyper important.
C'est parfait.
Pas besoin d'aller chercher très loin pour trouver la qualité.
Merci.
Et donc, c'est une émission, comme on a l'habitude de le faire en soirée, que j'anime avec Jean-Paul. Mm-hmm. Jean-Paul Delvor, vous connaissiez?
Non.
Toi, non.
Je découvre cet homme qui a l'air d'être tout à fait délicieux.
Il est délicieux. Et il faut aller le voir sur scène parce qu'il est tout timide dans la vie. C'est vrai.
Oui, peut-être.
Peut-être.
C'est une bombe sur
scène. Sans doute.
Comme souvent, c'est
bien. Non, mais c'est un exercice particulier, ça.
Voilà. Regarde, lui, par exemple, oui. On l'a rencontré il y a deux ans à France à Damien, pour ça l'embrouille.
Oui.
À table, il est tout calme, tout timide. Hein. Alors, quand tu le vois à la caméra, t'as l'impression que le mec, il est.
Ça rappelle.
En même temps, heureusement qu'il n'est pas tout le temps comme il est à la France.
Merci.
Alors, je rappelle pour les auditeurs qu'on a donc Arthur et Vincent du Gueuleton à table, Alexandra Stégonès, bonsoir Alexandra.
Bonsoir.
Des laboratoires Innovi. Grosse actualité. On va parler tout doucement de l'actualité, mais on va pas mettre ça en avant tout le temps. Rebecca Géraud,
oui,
de l'agence Com Sud,
affirmatif, et des bulles de com,
fidèle partenaire de Radio Bulle, et donc en chronique tous les jeudis matins.
Oui, tout à fait.
13.6.
Dans sa pétille.
Dans sa pétille. Mais oui, comme
en
toi.
En pétille tous les jeudis.
tous les matins, mais particulièrement.
Ensemble. Avec moi. Ça fait des bulles. Grégory Baquet, du Nouveau Théâtre du Jour,
et oui,
à Agen. Pareil, une force vive qui est revenue miser sur le territoire agenais, Lot-et-Garonne.
On peut dire ça.
Bah ouais, c'est vrai. Ouais. On a été ravis de savoir que tu arrivais. Et ce qui est cool avec toi, c'est que tu es quelqu'un aussi de très accessible. Donc tu
permets. Et pourquoi non?
Et pourquoi pas? Des fois, t'as. Voilà, non, mais c'est vrai. Mais bon, c'est bien. Marjorie, on l'a dit tout à l'heure, l'atelier traiteur, qui va nous régaler ce soir. Et donc, tu feras des allers-retours, bien entendu, pour nous régaler convenablement. Alors, on va commencer la soirée. On a posé une petite carte devant vous. Sur chaque carte, vous avez déjà votre prénom.
Ah, oui.
Et vous avez un mot. Ce mot, vous devez le soumettre à la personne indiquée sur la carte. L'idée, c'est qu'elle nous dise. C'est vrai? Tu veux qu'on lise pour toi?
Un soufflé, on va te souffler. Ah oui, non, c'est.
Oui, sur celle-ci.
Alors, l'idée, voilà, c'est que, avec le petit mot qu'on vous a mis sur le côté, c'est que la personne donc, qui a ce mot en face d'elle nous dise ce que ça lui inspire. Exemple, on commence tout de suite. Jean-Paul, tu as une carte.
Oui.
Et donc, c'est comme ça qu'on commence et ensuite, on enchaîne. Donc, Jean-Paul.
Et j'ai un mot pour Rebecca qui est en face de moi.
Oui.
Ce mot, c'est voix, V-O-I-X, la voix.
Qu'est-ce que ça t'inspire, la voix?
Ça m'inspire la musique. Mais oui, moi, voix, ça m'inspire la musique parce que je trouve toujours que les voix des gens sont très vocales. Je trouve qu'on a tous une musicalité différente, on a un rythme de parole. Il y a des voix, je trouve que c'est très personnel, qui nous apaisent. Ou à l'inverse, on peut trouver des voix insupportables. Du coup, j'aime bien la musicalité des voix et tout ça, tout très beau. Il y a des, moi, je trouve qu'il y a des voix qui m'ont parlé. Enfin, il y a des voix d'émissions de télé ou de jingle où je sais pas pourquoi l'expliquer. Ça te, c'est une voix qui résonne. Ouais. Et du coup, moi, ça me, on a tous une musicalité dans la voix. Alors, je m'arrêterai là. Je ne suis absolument pas musique et je ne serai pas chantée.
Non, mais tu parles du tempo quand la personne donne un rythme.
Ouais, je trouve que il y a toujours quelque chose de, enfin, ouais, chacun a son rythme, sa manière de ponctuer les, phrases, les émotions. Ça cache plein de choses. Je trouve la musicalité qu'on a tous dans la voix. Donc, voilà ce que spontanément, ça m'aurait évoqué.
l'énergie.
Et tu fais de la radio, donc
oui.
La voix est quand même primordiale. Tu t'écoutes à la radio ? Est-ce que tu te réécoutes ?
Pas souvent.
Non ?
Pas souvent. Je ne suis pas forcément à l'aise avec ma voix. Je pense que c'est le cas. Enfin, je sais, alors, ouais. On est peut-être à l'aise ou pas avec sa voix, mais c'est fou la différence entre ce qu'on entend quand on parle et la voix que l'on a.
Moi, je m'endors avec ma voix, tu le sauras.
C'est vrai que c'est très perturbant, je trouve...
Oui, c'est vrai qu'on ne relève que les défauts, finalement.
Oui, mais c'est vrai que je ne sais pas quelle est la vraie entre celle que l'on perçoit soi-même et celle que l'on entend quand on se réécoute, mais je préfère écouter les voix des autres.
Notamment la voix de Samia.
Je ne sais pas si elle aime écouter ma voix.
Oui, j'aime bien écouter ta voix.
C'est bien.
Je l'écoute ça me va. Beaucoup en direct avec toi, mais pour le coup, toi, tu disais énergie, c'est que tu as une voix pleine d'énergie.
Oui.
Enfin, ouais, c'est vraiment plein d'énergie. C'est très positif, quoi. Tu fais partie des gens qui ont une voix, je trouve, très spontanée. Tu peux pas mentir avec ta voix. Je trouve qu'on sent tout de suite l'énergie que tu as.
C'est vrai,
t'as
raison.
Ou alors tu le fais très bien.
Non, je ne sais pas mentir. J'ai un gros problème avec ça.
Ça fait très vrai. Enfin, on sent qu'on retrouve l'énergie que tu as tout de suite.
Et on entend le sourire.
C'est vrai, ouais.
Ouais, c'est vrai, le rythme, c'est important. Bah merci,
avec plaisir.
Tu as ta carte,
c'est un peu.
Ouais.
J'ai un mot pour Grégory.
Ah, c'est moi.
Et du coup, ce mot, c'est le silence.
Le silence. Tiens donc.
Qu'est-ce que ça t'évoque?
On va tout de suite rentrer en séance de psychothérapie.
Allez, vas-y.
Non, mais le silence, ça me convient. C'est ce que je recherche et c'est ce que je n'ai pas. Puisque il m'arrive de prendre la parole. Et puis, au bout de 5-10 minutes, me dire, mais je me saoule moi-même.
Ah, je comprends ça.
Voilà, je peux parler, je suis un grand bavard. Donc, je suis comme lance sur un sujet qui me passionne et je peux parler pendant des heures de trucs. Et au bout d'un moment, je me dis, mais tais-toi donc, ça suffit. Et pour avoir été un enfant de Paris et de la banlieue parisienne, j'ai fui en grande partie cette agglomération pour venir me mettre au silence. Justement, et on en parlait tout à l'heure, je me suis installé d'abord dans le Gers, où j'ai vraiment retrouvé un grand, grand silence, puisqu'il m'arrive même d'entendre mon cœur battre à certains moments de la journée. Il n'y a pas un bruit, et j'aspire de plus en plus à ce silence.
Faut être bien dans ta tête, hein, quand même, pour être bien.
Je me soigne.
Silence. Non, mais c'est vrai, moi, des fois, ça me stresse.
Moi, ça me stresse jamais.
Ah ouais?
Non, vraiment pas, non.
Le bruit des feuilles des arbres, c'est ça?
On parle. Oui, il y a plein de choses. Il y a tout un tas de choses qu'on redécouvre quand on est dans le calme et dans le silence. Tout d'un coup, on entend effectivement certaines feuilles. On peut. Alors, j'en suis pas encore à ce point-là, mais je me dis qu'un jour, j'arriverai juste à l'audition à savoir quel arbre
bruit fétide.
Wow.
Mais oui, non, mais c'est le...
Quel poète.
Effectivement, mais tu as raison. Par exemple, faut être bien dans sa tête, c'est sûr. Mais ça force à ça un peu, et du coup, c'est aussi un maître étalon. Quand on commence à se sentir mal dans un silence, c'est peut-être quelque chose à régler. Alors, prochain mot pour Alexandra. Le mot rupture.
Oula. Rupture. Alors, moi, le mot rupture, ça marque, je suis dans le domaine de l'innovation, et j'ai toujours été porté par des innovations de rupture. Alors, en fait, dans l'innovation, il y a deux types d'innovation, les innovations incrémentales, qui consistent à améliorer successivement un produit existant. Ça, c'est incrémental. Il y a des innovations de rupture qui consistent à créer un produit qui n'a jamais existé. Et ma vie a été ponctuée de ces innovations de rupture. Donc, la dernière en date s'est suivie, c'est le 27e brevet, mais avant lui, il y en a d'autres. Et donc, c'est la rupture, moi, pour moi, c'est bien évidemment, c'est les innovations de rupture qui ont marqué toute ma vie.
Mais j'imagine qu'il faut avoir une force de persuasion pour... C'est quand on est en rupture, les gens autour disent « mais pourquoi tu fais ça ?»
Ah non, mais c'est sûr que...
On va toujours être en train de...
Mais d'abord, il faut y croire soi-même. Parce que je veux dire que quand on commence à se dire que notre objectif, c'est celui-là, mais il n'y a personne d'abord par ce coin, on se dit « mais pas bien, c'est l'heure de sa piqûre, il faut 40. »
D'ailleurs, c'est l'heure de ta piqûre.
Voilà. Voilà. Après, c'est une chose qu'on vit presque viscéralement. On est convaincu. On imagine déjà, on vit les choses comme si elles existaient avant même qu'elles arrivent. On a besoin de cette force-là, parce qu'autrement on abandonne. Parce que quand on attaque des sujets où on se retrouve comme l'alpiniste au pied de la montagne, où il y a tout à faire, et si on n'a pas cette force-là, on s'arrête avant.
Et toi, tu t'arrêtes pas, de toute façon.
Là, encore moins comment.
C'est clair.
Ah oui, là, c'est, il n'y a pas d'arrêt, c'est super malin.
Et comment parce que moi, des fois, je vois pas le bout de la semaine, je vois pas le bout du mois. Je me dis à un moment donné, enfin, je me pose et j'arrive des fois à me poser. Mais toi, est-ce que tu arrives à te poser? Et vous, tout ce temps que vous êtes, parce que vous avez quand même des affaires qui tournent, qui roulent et tout, est-ce que vous arrivez aussi, voilà, à un moment donné, à dire, bon, là, allez, c'est le moment en famille, c'est le moment où je pose tout ça, je laisse ça de côté et...
Non. Rarement, hein.
Ouais.
Quand on a le téléphone qui pose pas là.
Mais encore.
Ouais, si, moi j'y arrive, depuis peu, mais j'y arrive assez en fait.
Ouais.
Je me suis imposé ça, notamment le fait que quand je me suis installé ici, par exemple, je n'ai pas pris de box internet à la maison.
Ah ouais. Voilà.
Parce que je sais qu'il y a ça au travail.
Ouais.
Qui a pris Starlink.
J'ai acheté un satellite.
Ça coûte. Par exemple, c'est impossible. Moi, si je vais quelque part, la première chose que je m'assure, c'est qu'il y ait un accès.
Mais nous, par exemple, avec Arthur, avec Gueto, on doit avoir 80 groupes WhatsApp, on veut tous les trucs, c'est non-stop.
80 groupes WhatsApp?
Ah ouais, entre tous les affiliés.
Ouais.
Et tous les deux, c'est de 7h à minuit, 1h du matin. Ça sert jamais, après, moi, je réponds tout de suite, hein. Ça me dérange pas. Mais...
Déjà, faut commencer par enlever les notifications, ça peut être un premier.
Oui, bah, mais c'est le boulot, donc moi, ça me dérange pas. Ouais. Ça serait l'inverse, on serait peut-être inquiet. Donc,
Rebecca, toi?
Non, moi, très honnêtement, non, je ne sais pas couper.
Bon, ben ça va, ça me rassure tout ça, parce que je me dis, à chaque fois, je me culpabilise et tout, mais en fait, tout le monde est un peu pareil, quoi.
Le curseur n'est pas toujours au même niveau, mais c'est toujours par là dans la tête, quoi.
Je comprends le sentiment de solitude sans le téléphone, hein. Moi, quand j'ai pas mon téléphone, mais je me dis, mais je dirais, ça, c'est une partie de moi.
Et après, moi, je vois ma famille, les enfants, les petits-enfants, ils sont habitués à ça. Parce qu'ils ont grandi, ils l'ont toujours vu comme ça. Ouais. À la limite, ils me verraient assis sur un canapé à regarder la télé, ils ne comprendraient pas. Je veux dire, on va faire, je ne sais pas quoi, quelle autre activité. Et eux, ils sont habitués, ils savent que de toute façon, voilà, ils vont voir le matin, je vais prendre un repas avec eux, et qu'après, on peut être n'importe où, on peut être en vacances. Je ne serai pas avec eux la journée. Et bizarrement, quand ils ne demandent pas, alors, c'est parce qu'ils sont habitués, parce qu'après, ils pourraient me le reprocher, peut-être en me disant, mais tu pourrais passer un peu de temps avec nous, tu pourrais aller.
Ils l'ont intégré.
Ils l'ont intégré. Ça se passe au télé. Je me rappelle que Samantha, ma fille, quand elle était petite, comme je travaillais beaucoup, le bénévolat était beaucoup chez ses grands-parents. Et quand elle était petite, une fois, elle me dit, elle s'approche de la bénévolat, elle n'était pas scolarisée, donc elle avait moins de 3 ans. Et elle s'approche de la bénévolat, elle me dit, je veux revenir à ma maison. Et là, je comprends que sa maison, dans sa tête, c'est chez mes grands-parents.
Ah, waouh!
Ça a été très, très bien. Et tout le temps qu'elle a grandi, je me suis toujours posé la question en me disant, est-ce que tu as fait le bon choix? Et est-ce qu'elle ne te reprochera pas demain? Et un jour, quelques années après, quand elle est venue travailler avec lui, pour Richard, ça a été compliqué. Mais pour moi, je me suis dit, le travail me rend ce qu'il m'a pris. J'ai passé des années, et là, je me dis, elle travaille avec nous, et ben, on va passer des années ensemble, on va construire ensemble. Et donc, le travail prend ce qu'il m'a pris. Et moi, je lui dis, première question que je lui ai posée, je lui dis, mais alors, je ne fais pas du travail, j'avais toujours peur de que c'est bon, je tout fort, sauf qu'elle me dit non. Non, parce qu'elle me dit, je t'ai tellement vue heureuse, épanouie de ce que tu faisais, que je te regardais avec de grands yeux, je me disais, je veux faire pareil. J'ai vécu avec cette culpabilité pendant longtemps, et puis après, ça m'a quitté, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, non, c'est plutôt l'exemple qu'on donne, est-ce que la vitrine qu'on leur donne, est-ce que, voilà, est-ce qu'on est une voix verrouillée pour eux, est-ce que ils peuvent s'inscrire dans ça, est-ce que ça leur donne envie? À la limite, je me dis que quelqu'un qui a une amplitude plus courte, et qui se plaît pas dans ce qu'il fait, et que si on les enfants, voilà, parents malheureux, même s'ils font que 7h, 8h par jour, je crois que ça doit être pire que quelqu'un qui a de grosses amplitudes, oui. Mais qui est heureux dans ce qu'il fait. Je crois que c'est voir les autres heureux qui permet d'alléger. Oui.
Mais ça pose la question de trouver l'équilibre aussi. Quand on a des enfants, on culpabilise toujours d'être un bon ou un mauvais parent. Effectivement, quand on a des vies pro très chargées.
Oui, bien sûr. On le voit à travers eux, je pense qu'on voit quand ils sont bien dans leur basket ou pas. Je pense qu'en vraiment, c'est la communication. Après, on essaye de mettre derrière quand même. C'est consacré à eux, mais ça fait partie du jeu.
Comme Vincent, ton fils est petit. Comment ça se passe de te voir travailler comme ça? Il te le réclame pas.
Tu peux parfois lui dire quand je reviens, dire tu vas manquer.
Ah oui, ça, oui, c'est normal. Mais autrement, je veux dire qu'il te reproche moi et des
Il a 4 ans, c'est pas oui. Ce que je vous parle. Je pense que Arthur et les enfants sont plus grands déjà. Parfois, c'est.
Moi j'en ai 3, 9, 2 garçons, une fille, 6 et 2 autres. Mais non, non, mais après, bah, quand on est avec eux, on est un petit peu obligé. Parfois, c'est eux qui nous obligent à éteindre le téléphone parce qu'on ne peut pas et gérer les 3 et regarder le téléphone.
Moi j'ai un mot pour Vincent, et ce mot c'est risque.
Ouais, c'est pas mal ça,
risque. Bah oui.
Non, mais risque, bah, forcément. Tu es en entreprise, tu penses à risque. Quand tu crées une entreprise, pour une fois, tu penses à ça, quoi. C'est-à-dire qu'est-ce que tu ne vas pas te planter quand on a affaire, est-ce qu'il faut prendre le risque d'être, de mettre toute ta vie dans une entreprise ou. Il faut pas le prendre. Donc, je pense à ça. Si tu prends pas le risque, tu peux aussi parfois peut-être le regretter. On dit, attends, j'y vais, oser faire le pas, d'essayer de créer quelque chose. D'ailleurs, tu peux réussir ou ne pas réussir. Hein. Mais je pense qu'aussi, de ne pas réussir, peut t'en prendre aussi à réussir par la suite. Enfin, voilà. Donc, prendre le risque, pour moi, ça me, je pense à ça directement. Entrepreneuriat.
Ouais, c'est la vision un peu saturne où, tu t'es pas loupé deux fois, t'as rien appris, quoi.
Ouais, c'est vrai. Nous, on a démarré avec Arthur, on était tout petit, on n'a pas mis 10 millions sur la table, rien du tout, on a démarré petit, donc c'était pas un risque.
J'ai pas pris de risque tout seul.
Avec la banque, avec nous. Voilà. Ça les aime bien, ça. Non, mais après, à notre niveau, je parle. Hein. Forcément, demain, tu démarres en mettant 15 millions sur la table. Bon, c'est pas même, on n'est pas à la même échelle. Je pense à ça, le risque.
Le risque professionnel.
Voilà.
Sur les murs du bureau, on écrit les phrases, des citations. Et il y en a une qui est une citation de Mandela qui dit « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». C'est-à-dire que le fait de faire, effectivement, on prend des risques. Mais est-ce que, à la limite, même ceux qui n'y arrivent pas, ils ont appris des choses? C'est ce que tu évoques quand tu parles des anglo-saxons.
Oui, oui. Mais c'est le métier qui rentre, en gros.
Ouais.
Tu t'es gamelé.
Bah. Qu'est-ce que c'est vraiment? Moi, ouais, on prend un risque, mais on a toujours quelque chose au bout. C'est le fait de ne. Je crois que le plus gros risque pour moi, ce serait de ne rien faire. Parce que, alors, pour le coup, rien faire, t'apprends rien. Alors, t'es sûr de. Là, t'as 100% de chance de ne rien avoir. Et tu t'apprends rien. Donc là, pour le coup, et puis en plus, l'immobilisme, ça n'existe pas parce qu'on vit dans un écosystème. Et si nous, on ne bouge pas, les autres avancent. Et donc, on forcément recule. Donc, on est condamné. Alors après, peut-être que je me dis ça parce que j'ai un tempérament à faire. Et que j'ai.
Non, mais en plus, toi, tu travailles avec le vivant, et effectivement, on sait, hein, le vivant comble le vide. Tu dis, prendre aucun risque, c'est rien faire, et c'est, en fait, c'est en quelque sorte se retrouver face à rien, quoi.
J'ai le sentiment que prendre, ne rien faire, c'est à la limite un plus gros risque que de faire.
Est-ce qu'il y a des fois où tu fais rien?
Non. Non, ça n'existe pas. Moi, c'est un bouton marche arrêt. C'est-à-dire que c'est où, si on met un bouton marche, ça ne s'arrête pas. Et ou alors, il faut dormir.
Et après, je reviens sur le côté entrepreneuriat. Je pense que le risque aussi, pour nous, hein, c'est aussi peut-être de faire confiance à des personnes. Ça, c'est aussi un risque. Parce que tu peux avoir des personnes qui, comme ça, quand tu les as en face de toi, peuvent paraître parfaites sur le
plan. C'est sûr.
Sur tous les plans, et finalement, tu prends un risque, et derrière, tu peux être déçu ou pas. Mais le risque avec l'humain, c'est très compliqué, je crois.
On est censé de risque.
Moi, j'aime bien prendre des décisions en analysant les risques. Ouais, en mesurant le risque. Ouais, tu risques quoi? En analysant les décisions par les risques, ça, c'est plus facile de la prendre.
C'est un bon métrique, je crois.
Alors, tous les roues, là, 119, tu sais, quand c'est 80, il n'y a plus de permis. 119, ça passe encore.
Bonne mesure du risque.
C'est un peu ce genre d'analyse. Je pense qu'on peut avancer beaucoup plus vite, et de manière plus efficace.
De façon de voir les choses, ouais.
Je suis pas autant pragmatique, je crois. Moi.
T'es prêt de Marjorie ou pas? T'es prêt ou pas?
Ouais.
L'alcool. Non, je veux dire. L'émotion.
Déjà, ça me parle parce que je suis sensible. Hein. Donc, l'émotion, ouais. On le vit, on le ressent. Ça nous guide aussi. La joie, la tristesse. C'est aussi, comment dire, dans la. On peut lier ça aussi dans tout ce qui est créatif, les métiers créatifs comme la cuisine par exemple. Ça peut nous guider, savoir ce qu'on ressent, ouais, c'est important. Vivre avec des choses au fond de soi.
Est-ce que vous prenez des décisions justement à base d'émotions?
Moi, tu vois, je dirais malheureusement, mais je l'ai pris en tout sur cette mesure-là, c'est bon, c'est vrai.
Ouais.
Ça, c'est l'unique. La raison ne gouverne pas chez moi. C'est
oui,
moi j'ai pas la chance comme Arthur de pouvoir dire je mesure par le risque. Je trouve que c'est intéressant et je me dis, ah oui, ça marche, c'est un bon
Ça marche sauf pour l'humain.
Mais alors que moi, c'est tout à l'émotion. Uniquement que ce que je ressens, ce dont j'ai envie, que je...
Ouais,
uniquement. Je dirais presque malheureusement, parce que si je mettais un peu plus de rationnel dans les choses, si véritablement j'enlevais toute cette tout cet émotionnel, je prendrais des décisions, mais complètement différentes. Une foule de décisions que j'aurais pris diamétralement de façon différente si elles avaient été faites.
Et Arthur, tu parles de l'humain, c'est vrai que c'est insaisissable. Un être humain, tu le rencontres, tu fais un entretien, deux entretiens, tu y crois, et puis au bout d'une semaine et demie, en poste, tu te dis, je me suis plantée, quoi. C'est difficile de rebondir derrière, parce que moi, ça entame mon moral personnellement. Mes émotions sont très... ça me fait du mal, ça.
Nous, en tout cas, pour la partie entrepreneuriale, hein, c'est sûr que le feeling, c'est, nous, on a tout basé là-dessus. Hein. Sur le choix des personnes, après, quand je parlais d'analyse par le risque, c'est pas forcément sur ça dépend des décisions. Il y a forcément de l'émotion sur plein de choses. Et nous, c'est comme ça qu'on a toujours fonctionné avec Vincent. Et parfois, on a des bons feelings, et puis derrière.
Il y a le cœur et la tête, quoi.
Ouais.
Mais parfois, le feeling peut toujours être bon, mais derrière, ça fait pas forcément.
Oui, on vous entend.
À l'inverse, tu peux avoir au début un truc qui te dérange, qui va quand même, et
oui,
une surprise. Hein.
Mmh. Il y a des fois, la couverture est belle, mais le contenu va pas bien. Il y a des fois, la couverture est râpée, mais quand on lit le livre,
c'est très bon. C'est ça.
Mais c'est peut-être la différence, en fait, entre l'émotion dont on parlait et l'intuition.
Oui, moi, je trouve que...
Parce que c'est pas tout à fait pareil.
Ouais.
Oh, non. Là, tu me parles beaucoup d'intuition, en fait.
Sur les choses.
Le feeling,
oui.
Et c'est vrai que peut-être que c'est plus utile et c'est plus constructif. De raisonner avec un feeling, avec l'intuition. Moi, je travaille beaucoup là-dessus. En revanche, quand une émotion nous arrive, elle est généralement difficilement contrôlable sur l'instant. En tout cas, c'est des gens qui sont certains, sont très sages et qui arrivent à contrôler leurs émotions. Mais c'est vrai que nos émotions, quand on les prend dans la gueule, généralement, si on raisonne avec ça tout de suite, c'est compliqué. C'est sûr que, par contre, l'émotion peut générer ensuite une réflexion et une intuition. Ça, l'intuition, je pense que elle est très utile, elle est très
importante. Non, mais c'est ça.
Après, l'intuition, c'est effectivement quelque chose de différent. Elle se nourrit des émotions parce qu'il faut pouvoir capter des signaux faibles. C'est-à-dire que, je ne sais pas, moi, il va y en avoir, il va y avoir une intuition parce qu'ils vont avoir du non-verbal ou du paraverbal, des micro-gestes qui vont trahir un peu et se disent, mais quand même. Là,
si on a une émotion. D'extrême bonheur, parce qu'on vient de voir quelque chose qui nous remplit de joie. L'intuition, elle risque peut-être d'être cachée par ces sentiments émotionnels.
Et aussi
une colère. C'est-à-dire quand quelque chose vient d'arriver, qui n'a rien à voir avec la situation, on vient se renverser un verre de vin, un café, puis on est en colère d'un truc, et tout d'un coup, il se passe. On doit prendre une décision. Est-ce qu'elle n'est pas un peu teintée de cette émotion-là? Il faut faire attention.
Ah oui, c'est sûr. Oui, l'émotion dans cette intensité-là, c'est-à-dire cette émotion brutale.
Ouais, ouais.
L'émotion, ça peut être une émotion, un goût, une odeur, un parfum, vision de quelque chose, tous les sens,
ce
qui nourrit les sens. Et c'est tout ce qui nourrit les sens qui va générer cette intuition. En revanche, quand elle arrive, qu'elle est violente, la version XXL, là forcément, c'est un tsunami.
C'est ton argent, Arthur.
Le mot temps.
Le temps.
Le temps.
Le temps, le climat.
Le temps, c'est un acte fou, ça. Le temps passe et les odeurs.
Ça, c'est joli. Toi qui es amateur.
C'est joli.
Joli.
Daniel Prévost, l'acteur.
Daniel Prévost.
Ouais, cette citation que j'aime beaucoup, parce qu'il y a eu une petite parenthèse, l'association de sauvegarde de l'œuf mayonnaise.
Attends, c'est
vrai ça? Ça existe,
c'est vrai.
Ils ont créé une montre et ils avaient invité un joueur d'Anne Trévaux qui avait sorti cette réflexion et ils l'ont mis du coup sur.
Ah, c'est vrai, génial! Le temps passe et les odeurs. Ouais,
c'est très bon sur le lycée.
Et pourquoi les maillots étaient.
Non, mais il est fan de maillots.
Ouais.
Il y a des coupes, l'association des andouillettes, il y a l'association de tout.
L'association de n'importe quoi.
Ok, d'accord, c'est
rigolo. C'est pour la sauvegarde de l'œuf cuit exactement comme il faut. La mayonnaise maison additionnelle.
Comme ça se. On a fait cette année, il y a un concours d'œufs maillot.
Du meilleur œuf,
organisé par cette association-là.
À la différence, elle est où? Parce que l'œuf mayonnaise.
Le maillot,
c'est travaillé.
Il y a œuf maillot et œuf maillot.
Attends.
Il faut maîtriser la cuisson du jaune, la texture du jaune, c'est très important, la qualité.
Pas qu'elle soit trop sèche.
Il y en a qui aiment les maillots trop moutardés, pas moutardés, etc. Il y a tout un tas de choses. Et après, c'est tout un art, la manière de le présenter, de la situation où il s'allage, est-ce que tu nappes, est-ce que tu. Il y a toutes les variantes aromatiques.
Mais tu ne nous auras pas, c'est le temps.
Exactement, je réponds. Non, mais le temps, C'est une notion importante, hein, parce que quand on est condamné à mourir, hein, qui est quand même assez restreint. Il faut arriver à faire des choses bien, avec, et puis à la fois pouvoir faire aussi tout ce qu'on a envie de faire professionnellement et personnellement. Le temps, ouais, ça, on n'a jamais assez de temps. En fait, c'est toujours le. Et à la fois, nous, quand on démarre jeune, on a aussi la plus grande richesse, c'est pas l'argent, c'est le temps. Le temps, c'est de l'argent. Il faut arriver à l'optimiser, quoi.
Quand je pense à Arthur, quand tu dis le mot temps, en fait, je pense à ses parents qui sont agriculteurs. Les gens, tu vois, par exemple, Arthur qui a planté des chênes truffiers chez lui, tu as planté et il faut attendre 1, 2, 3, voire 5, 6, 7 ans d'avoir le fruit. Tu vois, moi je pense à l'agriculture, quand le temps, tu vois, ça me pense à l'agriculture directement. Il faut être patient. Si le mauvais temps, ça peut tout te mettre en l'air. Enfin, c'est parti. Enfin, tu as plusieurs sens dans.
Ouais, la notion de rapidité, de décision du terme, pour le travail, pour nous, pour notre petite vie, pour ceux d'avant, ceux d'après. Ouais, le temps, c'est.
Ah, c'est beau, ceux d'avant, ceux d'après. J'aime bien. Ça me fait penser à un vieux pagnol, tout ceux du cimetière. Non, mais c'est vrai, c'est pas pour moi, c'est pour ceux du cimetière, c'est le papé qui dit ça. Vous avez la risque quand même.
Il faut réviser nos classiques.
Hein. Dans des sources,
mais dans des sources, c'est Jean de Florette. C'est Jean de Florette. Ah, oui, dans Jean de Florette.
Tu as le temps, toi, Alexandra? Je le regardais pagnol.
Non, regardez pagnol, non. Mais je me dis qu'en fait, le temps, pour moi, c'est un grand formateur. Pourquoi ? Parce que, de toute façon, je n'aurai que 24 heures dans la journée, je n'aurai pas une heure de plus. D'accord ? Et comme je suis condamnée à devoir faire utiliser plus dans le même temps, pour le coup, il faut trouver les bons mécanismes. C'est-à-dire que, il y a des fois, je vois des gens, je me dis, toi, tu n'as pas de temps, mais comment il fait lui ? Parce qu'il a. Une entreprise différente, des responsabilités différentes, peu importe. Et je me dis, mais quoi il fait ? Mais le temps est formateur, parce que là, on est obligé d'apprendre à déléguer, on est obligé d'apprendre à lâcher prise, on délègue, mais on veut que tout contrôler. En fait, c'est un grand formateur pour nous-mêmes. On est obligé de corriger nos élans qui sont des élans moins naturellement. Je préférais faire que faire. Après, mais le temps m'a obligé à dire, mais non, tu vois, tu vas faire. Et donc, ça nous oblige. Pour moi, le temps est un grand professeur.
Et en plus, en fait, il ne dépend pas que de nous. C'est aussi une façon d'harmoniser ces chronos, parce que toi, tu as un rythme. Les personnes autour de toi en ont un autre. Et effectivement, enfin, moi, je suis pareil. Hein. Des fois, j'ai envie que ça se fasse, ça soit terminé avant que ça ait commencé. Enfin, voilà. Et c'est vrai que c'est pas évident. Mais aussi, de prendre le temps, j'ai l'impression que ça devient un luxe. Moi, j'arrive plus à.
C'est bien de prendre le temps et de laisser reposer.
Toi, Jean, tu sais prendre le temps.
Je me force. Oui, je me force. Je me force parfois à arrêter à recharger la batterie.
Et il y a des formations pour ça.
Oui.
Je vois qu'on a quand même tous pris le temps de venir.
C'est vrai, mais ça, c'est obligé.
Après, c'est Samia.
Voilà.
Ah, ça, c'est gentil.
On a bonne compagnie en plus.
Ouais, on est bien là.
Enfin, oui. Pour l'instant.
Tu m'aurais dit, c'est un meeting.
Du MEDEF ? Non, je
me. Et les filles, toi, je suis pas politique. On n'est pas politique. Tu vois, je ne suis pas venu, tu vois. Nous, d'extrême droite, je ne suis pas venu non plus, tu vois.
Peu importe, voilà. Mais en tout cas, voilà, tu n'avais pas envie de te prendre la tête ce soir. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on échange. Moi, le seul temps que je me prends dans la journée, c'est jamais de mon fils à l'école. Ça, c'est non négociable. J'amène mon fils à l'école, je prends ce temps-là.
Quoi qu'il arrive.
Ah ouais, ça c'est. Voilà. Après le reste, on peut me bouffer.
Et après, il rentre tout seul.
Non, je vais le chercher. Non, je l'amène et je vais le chercher. Mais ça, c'est vraiment le truc que j'y tiens.
Même le dimanche, même tous les jours, j'emmène mon fils à l'école. C'est le temps que je prends.
Non, mais ça, c'est important.
Non, c'est les vacances. Je m'en fiche, c'est le temps que je prends, je t'emmène.
Maman t'a dit, elle t'amène avec toi tous les jours.
Et profite-en pas... parce qu'un jour, il ne voudra plus que tu l'amènes.
Mais ça commence. Du coup, Arthur.
Alors, du coup, à qui je m'adresse
à Jean-Paul, il est écrit, je pense, sur ta carte.
Ah, pour Jean-Paul. Ah oui, je pensais qu'on choisissait en fait.
Ah non, oui, Jean-Paul. Ah, il y en a qui suivent.
Vas-y, Jean-Paul. Vas-y. Donne-moi le mot.
Le mot est tellement chouette que j'ai pas vu ce qu'il y avait dessus. Plaisir.
Non. Plaisir, Jean-Paul.
Ouh là là, quel bon rare.
C'est à moi.
T'as chaud.
On écoute attentivement. Hein.
Plaisir à la vôtre, déjà.
Ouais, c'est
un plaisir.
Magnifique. Ça commence bien, t'as raison.
Ouais,
quand
même. Belle introduction. C'est la balle, plaisir olfactif. J'allais dire odoratif.
Belle introduction, quoi,
bien. Plaisir, plaisir. Voilà. En ce moment, je répète un spectacle avec monsieur là-bas, Grégory Paquet, et je prends beaucoup de plaisir. Oui, c'est quand même un travail, mais je ne pourrais pas le faire sans plaisir. Plaisir d'être avec lui, avec les jeunes de l'école, plaisir partagé, voilà. Même si c'est parfois difficile et c'est fatigant et que Grégory nous amène dans des zones un peu inconfortables, ça reste un grand plaisir. Travailler avec des gens que j'apprécie, que j'aime et avec qui je suis content ensuite de pouvoir affaire. Oui, parce que c'est quand même quelque chose qui, qu'on a en commun, mais qui est pas forcément évident pour tout le monde. Mais justement, c'est ça qui a changé aussi beaucoup chez moi, et j'essaie de le faire avec les autres, c'est faire les choses dans le plaisir. Même si c'est dur, même s'il faut bosser, même si de temps en temps c'est effectivement inconfortable, même si on va de temps en temps chercher des trucs qui sont pas forcément qu'on n'aurait pas envie, quand même de le faire dans le plaisir.
Tu sais faire autrement, en tout cas. Voilà. Enfin, je pense que tous on est passionnés par nos activités respectives et on y prend du plaisir, quoi. C'est le moteur, en fait.
Mais c'est ce qui fait, en fait, qu'on arrive à accepter des fois des moments où on se sent humainement un petit peu dépossédé.
Non, mais si vous nous en parlez, Samia.
Non, mais on échange, donc autant se parler. Non, mais moi, tout va bien, je te rassure. Mais
juste... Et voilà, rassurée, merci.
Non, mais c'est vrai que des fois, moi, j'ai travaillé dans plein de radios différentes, je travaille dans les radios commerciales. Donc, tout est formaté, t'as plus qu'à venir te poser et tu suis la consigne et ça va. Sauf que tu prends plus de plaisir au bout d'un moment, parce qu'effectivement, même si on te ramène des starlets, des machins, après t'as 32 ans, enfin, moi je me souviens, j'en avais marre. En fait, je m'ennuyais, et j'avais cette curiosité intellectuelle qui n'était pas satisfaite et tout. Donc je ne prenais pas de plaisir. Tant j'avais mes après-midi tranquilles et tout, ma vie elle était réglée. Mais je ne prenais pas de plaisir. Donc effectivement, le plaisir, ça va aussi un petit peu avec la liberté, je trouve. Parce que le plaisir, on le choisit. Des fois, on est surpris, mais on choisit de l'accepter. Donc, effectivement, je préfère vivre comme ça, même professionnellement. S'il y a 20% de plaisir dans la semaine, c'est ça de pris, quoi.
Mais il faut que la vie soit plaisante.
Exactement.
Je suis d'accord avec vous. Il faut prendre la vie du bon côté. Hein. Si on se lève le matin en disant « ça va être une bonne journée », c'est différent.
Exactement.
Ça change.
C'est une chose qu'il faut réussir à faire. Chaque matin, de se le dire. Ouais. Ça va être une bonne journée. Rien que ça, déjà, nous créons notre propre journée. Ça change beaucoup de choses.
Après, je pense qu'on a ici toute la chance d'avoir ce plaisir. Je pense qu'il y a des gens le matin qui vont au boulot sans plaisir. Et ça, moi, j'ai pas connu ça. Ça m'est arrivé parfois de me lever au début quand on avait le premier gueuleton à Agen. Il y a des jours, parce que c'est quand même tous les jours quasiment. Il y a des jours, tu dis, hier c'était sympa, aujourd'hui, est-ce que t'as pas, tu dis, parfois, il faut être motivé quand même, les jours. Donc je pense que la même chose, on aurait dû faire un métier de passion, enfin nous, avec Arthur. Et tout le monde.
Mais ça n'empêche qu'on a le droit, même dans un métier de passion, de certains matins de se dire,
voilà, c'est ça.
Ouais. Aujourd'hui, c'est dur, quoi.
Oui, parce qu'il y a des enjeux aussi.
Ça va être.
Ça arrive, quoi. C'est
le condition sine qua non de faire ce qu'on fait. C'est-à-dire que c'est le plaisir qui anesthésie un peu le fait, les habitudes horaires, la difficulté, etc. C'est anesthésié par le plaisir. C'est vraiment le plaisir et tout le reste. Et c'est ce qui nous permet d'avoir, de faire ce qu'on fait. Il n'y aurait pas de plaisir. Je pense que c'est absolument impossible.
Alors après, je pense à une chose, c'est qu'aujourd'hui, moi je connais des gens qui sont des passionnés, qui font leur boulot, mais à la fin, et c'est pas une critique, mais c'est la vérité, c'est qu'à la fin, aujourd'hui, tu travailles pour le plaisir, mais on te prend tellement de choses à la fin, tu vois, par exemple, surtout à ce moment, tout ce qui est artisanat, tout ça, j'ai l'impression que ça gâche ton plaisir aussi, donc c'est parce que pourquoi? Parce que à la base, c'est un métier de passion, mais finalement, c'est bien le plaisir, mais c'est bien aussi d'avoir en face quelque chose qui peut te rémunérer, par exemple, le salaire, tu vois. Je pense qu'il y a des gens passionnés qui font un travail, ou à la fin, ils sont déçus parce que.
Parce qu'ils ont plus de contraintes, finalement, que.
Plus de contraintes, c'est qu'aujourd'hui, tu donnes beaucoup aussi, par du boulot, à l'État, et comme ça, enfin, voilà, ça peut gâcher le plaisir.
On a dit qu'on fera pas de politique.
Non, mais
je pense sincèrement que depuis quelques années, justement, on stigmatise et on bannit les gens qui prennent du plaisir. Justement, depuis longtemps, que ce soit la littérature ou les films, on nous montre un monde où on essaie de formater des gens qui soient métro, boulot, dodo. C'est quand même un mot qu'on entend depuis très très longtemps, métro, boulot, dodo. Il n'y a pas de plaisir dans cette ligne de vie. Donc tous ceux qui s'écartent de ça, on se charge de les remettre dans le droit chemin, hein, et de leur mettre des impôts, des machins, des trucs. Non, mon gars, là, tu prends pas trop de plaisir. Je pense qu'il y a un désir de remettre les gens dans un couloir de...
Ouais, c'est vrai.
Et du coup, ça nous amène quand même à penser aux TPE et aux PME, premier employeur de France, il faut le dire aussi, il faut les valoriser. Nous, on travaille beaucoup avec eux chez Radio Bulle. Et c'est vrai qu'on voit, on a vu... Effectivement, je pense que c'est un peu la pensée que Vincent avait. Des gens qui se réveillent tous les jours et qui essaient de se construire leur salaire, ils investissent beaucoup d'eux-mêmes. Et pour autant, il n'y a pas la réponse attendue en face. Et on sait qu'en ce moment, ça tape de plus en plus difficilement et qu'il y a beaucoup d'entreprises qui doivent fermer. Et ça fait partie aussi de notre travail de valoriser les entreprises du territoire. Notamment au cœur de village. Non, mais c'est vrai, c'est important d'y penser, n'est-ce pas, Rebecca?
Oui.
Parce que toi, t'as quand même aussi, tu t'es lancée jeune sur un business qui est. Enfin, moi, je suis épatée.
Jeune, je sais pas.
Si, t'étais jeune. Enfin, t'es fatigué toujours, mais quand même. J'avoue, t'étais. Ça y est,
la
ça y est j'ai pris 10 ans. Non, mais attends, mais
c'est. Oui, je suis devenue chef d'entreprise à 27 ans.
Ouais, bah quand même. Et puis, il y avait combien de salariés t'as
8, enfin 9. 9 ouais, quand j'ai rappelé l'entreprise, tout ça. Par intuition, moi, j'y suis allée. Pas d'analyse de risque du tout.
Ouais. Ouais.
Non, c'était vraiment très intuitif et c'était plutôt en mode si je le faisais pas, j'allais le regretter. Enfin, l'opportunité était dingue en fait. Fallait le faire, c'est tout en fait. Je pense que j'ai quand même très confiance en la vie dans le sens où quand t'as beaucoup de trucs qui t'amènent au même endroit et quand t'as tous les astres qui s'alignent, c'est peut-être parce que ton chemin il est là quoi. Donc faut pas trop poser de questions, des fois il faut les dire.
Ce que tu dis là aujourd'hui sur la démarche que t'as eue, je le vois en fait dans la manière dont on bosse. T'es pas quelqu'un qui te pose 36 000 questions. C'est plutôt un a priori positif à chaque fois sur les choses.
Ouais. Enfin, des fois, c'est ce qu'on me dit, ça peut, faut pas tomber dans l'excès de naïveté non plus. Je suis foncièrement positive et je fais confiance. Enfin, je pense que je pars du principe que la journée va être belle, que les collaborations sont chouettes, que les gens prennent tout du côté positif. Et puis après, on ajuste en fonction de ce qui se passe. Dans tous les cas, le soleil se couche à la fin de la journée, il y a toujours que 24 heures. Donc, on redémarrera le lendemain et puis et c'est l'équipe qui fait que ça marche aussi. J'avoue que je ne serais pas être chef d'entreprise seule. Enfin, je ne serais pas être auto-entrepreneur, je pense.
Ouais.
Moi, je pense que
c'est d'avoir une team.
C'est l'équipe qui me donne confiance et qui fait que le matin, j'ai envie d'y aller. Quoi. C'est pour eux.
Ouais.
Mais tu es une nature optimiste.
Ben oui.
Ah ouais, non, mais c'est clair.
Alors, tout le monde ne verra pas, mais la gentille personne qui est en train de nous filmer ce soir,
ouais,
avec qui on a eu la chance de travailler,
ouais.
Nous avons eu une énigme un jour, soi-disant, nous aurions créé un cercle de négativité, soi-disant, parce qu'on voyait les choses toujours mal. Mais la preuve est que. Quelqu'un qui nous dit ça. Mais la preuve est, je ne pense pas, du coup, être.
Mais non, c'est de la lucidité. Il faut être lucide. Mais c'est vrai que la lucidité, elle est mal prise des fois.
Non, mais moi, dans mon cas, je pense que c'est que je suis très râleuse, très spontanée. Quand quelque chose ne me plaît pas et que je ne suis pas contente, je ne peux pas m'empêcher de le dire. Et, je suis très râleuse. Mais
c'est
ça
vrai, je n'ai pas cru.
Je suis très râleuse, mais ça ne m'empêche pas d'être passionnée et de pouvoir être toujours aussi ravie quand notre boulot, c'est des urgences quotidiennes avec les clients. Une énième urgence qui tombe, je vais râler par émotion, quoi.
Ouais, ça fait du bien.
Mais au fond, en fait, j'adore ça. Au fond, je suis contente d'avoir l'urgence. Je carbure à ça, quoi. Donc, j'aime beaucoup râler, mais je reste foncièrement positive.
Il est bon, ce bar.
Ça circule.
Moi, je mange des œufs, ils sont magnifiques.
Oui. Des œufs du concours de la confrérie.
C'est ça. Magnifique. Il aurait pu gagner le concours.
C'est vrai que c'est délicieux, Marie.
Très délicat. On prend beaucoup de plaisir.
Voilà.
Bien dire, monsieur Melotte.
Bon, ben, je suis fière de vous, voilà.
Jusqu'ici, tout va bien.
De vous annoncer qu'on a terminé le premier jeu.
Mais tu joues pas, toi?
Ben non. Ouais. Mais je peux lancer un mot, si vous voulez.
Ben non.
Non.
On va choisir pour toi. Alors, je vais te redonner un mot.
Allez, vas-y.
Ultra crépidarianisme.
Alors, ça, c'est une devinette. Je ne sais pas ce que ça
veut dire. Quand je vais vous dire ce que c'est, parce que j'ai appris ce mot-là il n'y a pas longtemps. Et je trouve ça magnifique. L'ultra crépidarianisme, c'est un mot très savant qui montre des personnes qui disent plein de choses sur des sujets qu'ils ne connaissent pas. C'est quand on a l'impression de tout connaître.
Ah, c'est politique, quoi, tu veux dire?
Non, bah, pas que. Tu es fixé sur la politique.
Avoir un
avis sur un sujet. En fait, c'est de prendre la parole et dire, mais moi, je parle d'un sujet alors qu'on n'en connaît rien du tout. Et c'est comme ça sur tous les sujets de la soirée. On fait de l'ultra crépidarianisme.
Alors, je connais personne qui pratique cet art. J'ai beau réfléchir.
Contre des politiques, il y en a quelques-uns.
Ah ouais, c'est clair.
Non, les politiques. Ouais, ils connaissent quand même un petit peu leur sujet, à minima.
Non, mais c'est des experts, surtout. À la télé, il y a toujours des experts qui viennent.
Non, c'est les réseaux sociaux. C'est le pire, c'est sur les réseaux sociaux.
Ah oui, ça oui.
T'as toujours des gens qui commentent, qui savent mieux que toi, c'est incroyable.
Et les réseaux sociaux, comment vous les travaillez du coup? Où est-ce que vous avez décidé de ne pas les travailler?
Ah non, mais le géro de la catégorie, c'est l'Instagram. Ça, c'est champion du monde, là, en technique.
Non, mais
bon. Ouais, c'est toujours bien exécuté, en plus, c'est quand même. Et votre livre, là, qui est sorti? On en parlait avec Rebecca tout à l'heure. Qui est dans la
com et tout, l'objet était déjà. Bah, moi, je suis une fervente défenseuse. J'adore le livre. Enfin, je trouve que mon contact avec le papier, c'est un support que j'adore travailler. Je trouve que ça crée une émotion vraiment différente. Il y a l'explosion des réseaux sociaux, le format vidéo qui marche énormément parce que c'est très immersif, c'est très dynamique. Il n'y a rien qui équivaut ce qu'on vit en lisant un livre et en faisant appel à son imagination, en fait. C'est très différent, je trouve. Il y a ton propre filtre derrière. Enfin, moi, le livre, je trouve que c'est le format qui traverse pour le temps parce que c'est Non, et puis l'objet en lui-même, il
est... Moi, je suis pas un grand lecteur.
Ouais.
Ça a toujours, j'ai toujours été déçu par ça, parce que j'ai lu quand j'étais jeune, c'était un théorie. C'est vrai, aujourd'hui, je ne lis pas. À part la presse, on a fait un livre, bien sûr.
Tu l'as lu, vrai.
Ouais, on l'a lu par cœur. Tu viens, Alexandra, dans ce que tu lis beaucoup ?
Exclusivement que ça des choses professionnelles.
Ah oui, voilà, ouais.
Exclusivement. En revanche, je n'ai par exemple de ma vie, c'est triste à dire, j'ai jamais lu un seul roman de ma vie.
Jamais.
Même à l'école au moins.
Ou alors, ça ne m'a pas marqué. J'ai pas le souvenir. Je ne lis que des choses où je peux apprendre des choses.
Ils sont concrets.
Pas quelque chose pour m'évader.
Pas de fiction.
Je ne vais pas apprendre, voilà, pas de fiction, pas des choses qui. Pas un objectif. Je suis pas en train de construire quelque chose pour atteindre autre chose. Je pars pas d'un point A pour aller d'un point B et le livre va bien s'enlever. J'ai beaucoup lu. D'abord parce que quand on est autodidacte, il faut beaucoup lire pour se retrouver surtout dans le domaine dans lequel je suis. Moi, je me rappelle une fois, par exemple, ça il y a peut-être 30 ans, je suis dans la cosmétique. Et je fais à l'époque des formules spécifiques pour les princesses du roi Faisal d'Arabie Saoudite. Et il se trouve que les princesses sont coiffées par un coiffeur qui s'appelle Sylvain Médou, qui est un Français, qui était un Français qui avait réussi aux États-Unis. Et il coiffait 4 personnes dans le monde. À l'époque, Hillary Clinton, donc il voyageait avec Air Force One parce qu'il pouvait. Il coiffait les réglettes, les princesses ont fait ça, et peut-être qu'on n'avait que 4 personnes à coiffer dans le monde. Un jour, les princesses doivent lui dire, moi je me fais faire des crèmes par une femme dans le sud de la France, etc. Et Sylvain Mélou lui dit, ah mais justement, j'ai besoin, je vais aller la voir pour voir pour des crèmes, pour mes salons, etc. Et donc il vient. On parle d'une surcosmétique. Et je me rappelle, toujours, je le raccompagne à l'époque au Jacobin. Il est logé au Jacobin, à l'hôtel au Jacobin. Il est dans la voiture, pour une raison que j'ignore complètement. Je viens lui parler de son domaine d'activité, qui est la coiffure. Et je lui dis, c'est vrai que je manque de temps, mais les cheveux, c'est quelque chose d'intéressant. Un jour, je me pencherai sur les cheveux. Et il me dit, Alexandra, vous avez des qualités incontestées et contestables en biologie. Mais les cheveux, c'est de la chimie. Ça n'a rien à voir, c'est de la chimie. J'étais vexée. Je me rappelle, on arrivait juste devant l'église des Jacobins, j'avais plus qu'à tourner pour le déposer. Je le dépose. Et dans la voiture, je me dis, ça, on te le dira jamais. Je rentre, je dis à Richard, demain, je suis pas là. Je suis chez Moula. Moula, c'est le.
Oui, là. Oui.
Et j'y suis rentrée à dire, je dis, personne n'est né en sachant faire les choses. C'est-à-dire, on n'a jamais été dans une maternité, voir un enfant en lui disant bonjour maître, bonjour docteur. Il y a personne n'est né en sachant faire les choses. Tout le monde les a appris. Donc, le savoir, il est dans les livres. Donc, c'est pas compliqué. Tu rentres là-dedans, tu ressors qu'au 4 ans. Donc, je suis rentrée à 10h, j'ai dû sortir, c'était 5h d'après-midi. Je crois que j'ai acheté tous les livres qui existaient sur le cheveu.
Sur le cheveu.
Et je me le réveille la nuit pour bosser mon livre sur le cheveu.
Ah oui.
Sauf que la chimie, c'était des ponts disulfures. Je me rappelle de ces ponts disulfures. Et je me disais, ce chapitre-là m'a marqué. Quand j'ai réussi à faire des lignes capillaires, et après on fournissait l'école européenne de cheveux et les centres de cheveux, je prends une grosse boîte de cheveux, comme ça, une grosse. Je mets du papier de soie, les produits dedans, je remets le couvercle dedans, une lettre américaine, j'envoie ça à Washington et je lui dis merci, sans vous, je ne serais jamais arrivé là. Et voilà.
C'est énorme.
Donc là, les livres, oui, j'ai beaucoup lu, mais uniquement que parce que je voulais aller d'un point A à un point B. Mais lire, pour lire, et que je ne connais pas, je ne sais pas pourquoi je fais ça et pourquoi je passe du temps à ça, je
ne vois jamais de film.
Tu vois un
livre ? Non.
T'écoutes pas de disques ?
Non.
Alexandra, je ne me trompe pas, m'a dit que c'est toi qui faisais les sauces pour Pitaya.
100% de ce qui se fait chez Pitaya, c'est nous. On fait 2000 tonnes de sauces pour Pitaya.
Incroyable, c'est.
En fait, l'innovation, c'est un peu comme la philosophie, c'est un domaine. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est quand il y a une difficulté, quelque chose à résoudre, je ne m'interdis rien. Donc je me dis, je vais trouver la solution. Là, ce qui est le plus... Je me rappelle un jour, quelqu'un est venu me voir, je le regardais avec de grands yeux, il me faisait un très beau cadeau. Il allait bien me voir, il venait me voir des produits dentaires. en me disant, moi je lance ma ligne de produits dentaires, il me faudrait de la rétraction gingivale, il me faudrait du pincement dentaire, etc. Moi je l'ai vécu, il y en a, ils se seraient dit, mais, c'est pas bien, non, excusez-nous, c'est pas notre domaine, etc. Et là, moi je me suis dit, oui, c'est il m'aurait offert un billet en business ou en première pour aller voir une contrée lointaine. Je n'aurais pas été content, parce que je me dis, il va me donner l'occasion, je ne serai jamais allé voir dans le temps. Je ne serai pas allé voir. Et comme là, il me demande des produits, ça va me permettre de découvrir le dentaire. Et donc là, je partais dans un domaine où comme je découvrais, c'est cognitif, mais là, c'était comme si je découvrais une contrée. Je vais savoir comment c'est fait, je vais comprendre, je vais apprendre tout sur les dents. Et je me réjouissais de découvrir le fonctionnement du dentaire. Et là, il n'aurait pas pu me faire un cadeau plus important. Jamais. Moi, l'avantage, c'est que je pars de page blanche. Quelqu'un qui travaille, qui est dans le domaine, il part avec les vérités du passé.
Donc, ça l'influence.
Oui, bien sûr.